En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'écrivain Georges Semprin de l'Académie Goncourt est venu le 6 juin 2007 devant les membres de l'Académie des Beaux-Arts faire une communication intitulée « Anthony Blunt, le clerc de la trahison ». Anthony Blunt, célèbre espion, né en 1907 et mort en 1983, était aussi un historien d'art bien connu. Sa double vie ne pouvait manquer de fasciner Georges Semprin, résistant communiste, survivant de Buchenwald, venu d'Espagne à Paris avec sa famille en 1937. L'écrivain vous propose de remonter le temps et de plonger sur la rive droite, place du Trocadéro, justement en 1937. Écoutons-le à la rencontre de Picasso sur les traces d'Anthony Blunt. Il nous révèle la vision du monde de Blunt, pur produit de Cambridge, son attirance pour le marxisme et son rapport à l'art moderne. Georges Semprin présente la vision de l'art de cet espion, fasciné par la peinture de Poussin, d'un côté au service de l'Union soviétique et de l'autre au service de la reine d'Angleterre, dont il finit par être le conservateur des collections privées. Écoutez la retransmission de cette séance où art et espionnage se mêlent dans la voix de Georges Semprin.
J'ai choisi Anthony Blunt, entre autres raisons, parce que si je me souviens bien aussi, les informations que m'a données Jean Cortot sont exactes. Vous avez eu, il y a quelque temps, une communication sur Poussin, de Michel Déon, si je crois. Et que Poussin étant le peintre préféré d'Anthony Blunt, celui-ci ayant fait la plupart de ses travaux scientifiques, disons, et la plupart de sa célébrité venant de son étude, de son systématique de l'œuvre de Poussin, il m'a semblé que c'était amusant de passer de Poussin à Blunt. Évidemment, c'est moins académique la vie de Blunt, c'est moins classique que celle de Poussin. Je vous dirais tout d'abord que si nous étions dans un roman et pas dans cette illustre académie, je sais par où je commencerai. Les romans ne commencent pas toujours par le commencement. Le roman commence au milieu de l'histoire et puis on reconstruit autour de cet événement crucial la vie des personnages. Je ne veux pas commencer donc par le début de la vie d'Anthony Blunt, mais par un moment que je trouve, je vais essayer de vous convaincre de ça, crucial dans sa vie, c'est l'été 1937. D'ailleurs, c'est là aussi que commence l'essai de George Steiner qui m'a donné le nom de cette communication. Il a appelé son essai « Le clerc de la trahison » et c'est pour ça que j'ai repris ce titre. Et je reprends aussi son idée de commencer cet exposé très rapide et peut-être parfois un peu schématique étant donné le temps dont nous disposons et qui doit laisser un peu de temps au débat, l'été 1937. C'est une façon romanesque de commencer, mais c'est romanesque aussi, la vie de Blunt est romanesque. Je rappelle, pour ne pas avoir à y revenir tout le temps, que Blunt a fini sa vie comme conservateur de la collection privée de la reine d'Angleterre, introduit donc à la cour, ayant fait des catalogues, des dessins ou des gravures ou des œuvres de différents châteaux de Windsor en Angleterre, qu'il a été ennobli par la reine d'Angleterre, qu'il a eu tous les postes académiques et tous les titres académiques qu'on peut avoir dans une vie d'expert, d'historien de l'art, et qu'il était en même temps, pendant une bonne partie de sa vie, espion de l'Union soviétique. Et que il a fini par être pris par les services de contre-espionnage anglais, mais il a monnayé son immunité en disant ce qu'il pouvait dire, ce qu'il a voulu bien dire. Et il a obtenu cette immunité, qui a provoqué un scandale en Angleterre jusqu'au jour où Margaret Thatcher l'a révélé à la Chambre des communes, en 1979, et il a fini quand même, à peu près normalement, cette double vie, ou cette vie très compliquée. C'est déjà très romanesque en soi-même. Mais 1937, pourquoi ? 1937, c'est le jour, c'est l'année où se célèbre l'exposition universelle, internationale de Paris, exposition dont le titre exact est « Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne ». Il définit bien le sens de l'exposition. Et 1937, on peut imaginer Anthony Blunt arrivant pour visiter cette exposition. Je ne sais pas la date exacte. C'est un article auquel je vais me référer plus tard, est du mois d'août, exactement du 6 août. Mais il a dû venir en juillet voir l'exposition et voir en particulier le Guernica de Picasso. Il va se trouver que vous allez le voir, Guernica et Picasso, au centre de toute notre histoire. On peut imaginer très bien qu'il traverse ou qu'il arrive sur la rive droite et sur la place au pied du palais du Trocadéro. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui savent exactement que Trocadéro, c'est Trocadéro, un nom espagnol, et qui commémore la dernière victoire des 100 000 fils de Saint-Louis, commandés par le duc d'Angoulême, et qui ont pris les fortifications, le fort du Trocadéro, qui a ouvert la porte de Cadix, et donc a ouvert la porte de la victoire française en Espagne. Victoire française qui, je ne veux pas lire les mémoires d'Outre-Tombe sans de temps en temps avoir un sursaut de colère, parce que Chateaubriand a été au ministère des Affaires étrangères quand cette expédition a eu lieu, qui a rétabli l'absolutisme en Espagne. Donc tous les jours, devant le palais de Chaillot construit en 37, qui remplace le vieux palais rococo du Trocadéro, tous les jours, nous passons, vous passez, et les Parisiens passent devant le lieu qui commémore la victoire de l'absolutisme grâce aux 100 000 fils de Saint-Louis. Il traverse, il arrive, et sur cette rive droite, devant, imaginons virtuellement devant le palais de Chaillot actuel, qui a été construit pour ça, qui a été reconstruit dans ce style qui est le sien pour cette exposition de 37. Devant ce palais de Chaillot se dressent deux pavillons, le pavillon soviétique et le pavillon nazi qui font face, et qui sont tous les deux identiques dans leur structure architecturale, dans la grandiloquence de leur faucillé marteau d'un côté et de l'aigle impérial hitlérien de l'autre, et identique aussi dans le contenu culturel de l'art officiel, le réalisme arien ou socialiste de deux côtés, et qui en même temps sont les signes évidents de cette opposition qui va conduire à une guerre meurtrière quelques années plus tard. C'est vraiment la lutte pour l'hégémonie en Europe que symbolise. Il a pu passer, qu'est-ce qu'il a pensé, Blunt, de cette, lui espion soviétique déjà, qu'est-ce qu'il a pensé de cet affrontement? Nous n'en savons rien. Mais il a fait quelques pas de plus, il a tourné à droite, il est descendu vers un pavillon très modeste, le pavillon de la République espagnole. Le pavillon de la République espagnole qui est en 1937, au moment de la guerre civile, moments les plus dangereux avant la défaite de 39 pour la République espagnole, où les contradictions internes de la République, la division dans les forces républicaines, l'opposition entre partisans de l'aide soviétique et adversaires de l'aide soviétique, l'opposition des services d'espionnage soviétique qui commence à agir en Espagne et qui essaye de prendre l'hégémonie, la mainmise sur la vie politique espagnole, à ce moment crucial où il y a même des affrontements armés entre pro-communistes et anarchistes et anti-staliniens à Barcelone. À ce moment, la République espagnole a réussi à présenter un pavillon qui, à mon avis, peut-être suis-je un peu chauvin, l'exemple même, sobre et de la modernité. Un pavillon où on entre, on voit la fontaine de Mercure de Calder, on voit des miroirs, on voit des sculptures du surréaliste espagnol mort en exil après Alberto Sánchez, et on voit le Guernica de Picasso. Dans un pavillon d'une architecture tout à fait moderne, mais sobre, fonctionnelle, de certes. C'est-à-dire, malgré la guerre et malgré les circonstances déjà qui ont détruit pratiquement, commencent à détruire l'essence même du sens de la lutte républicaine antifasciste, ce pavillon incarne cette modernité. Il est allé, il a vu, il a contemplé Picasso, il a contemplé Guernica. Et il a écrit... Et il écrit un premier article le 6 août dans une revue où il est critique littéraire assidu et permanent, Le Spectateur de Londres. Il écrit un article très négatif. Picasso n'a pas réussi à capter le sens véritable de la lutte politique. Picasso est un peintre pour esthète, il ne touchera jamais les grandes foules. Picasso n'a pas saisi le sens du bombardement de Guernica. En octobre, le 8 octobre, il revient sur Picasso, mais là à propos d'une série extraordinaire, à mon avis, de gravures de Picasso qui s'appelle « Songes et mensonges de Franco », avec un texte de Picasso, une espèce de poème surréaliste, sans point ni virgule, sans ponctuation, une espèce de d'élucubration, de cri de colère contre Franco. « Sueño y mentira de Franco »,« Songes et mensonges de Franco ». Et il constate que la même chose, il dit « Non, Picasso, vraiment, c'est un artiste pour esthète, c'est pas un artiste pour le peuple, et c'est au peuple qu'il faut s'adresser, etc. » Et en octobre 38, il met une touche finale à cette série d'articles sur Picasso, et il dit catégoriquement à la fin de son article, Picasso appartient au passé. En 1938. Plus tard, si on veut être tout à fait honnête et complet, plus tard, et même si le sujet de cette brève communication n'est pas les rapports de Blunt avec l'art moderne à travers Picasso, même s'il faut que je revienne un peu parce que c'est très significatif de la contexture psychologique qui a fait de Blunt un espion. Mais plus tard, il revient, beaucoup plus tard, des décennies plus tard, et il réhabilite Picasso en partie. Pas forcément le Guernica, mais il réhabilite. Mais pour une raison très simple, parce qu'il retrouve dans Picasso, il retrouve des thèmes, même par moments des profils, des silhouettes, des personnages, des moments du classicisme. Il y retrouve Ingres, il retrouve des peintres, les peintres qu'il préférait, c'est les peintres classiques français, les peintres du 17e, 18e français, c'est ça sa spécialité, c'est sa passion, c'est son amour, et c'est aussi la rigueur à laquelle il aspire de tous les points de vue. Il retrouve. Mais plus en tant que Picasso, mais en tant que continuateur d'une tradition de la peinture, qu'il retrouve malgré tout dans le cubisme et dans un certain nombre de choses de Picasso. Il aurait donc été certainement tout à fait intéressé par l'exposition qui vient d'avoir lieu l'année dernière à Madrid sur Picasso, une double exposition assez extraordinaire. L'exposition au musée d'art moderne Reina Sofía, où on a confronté, chose qu'il fallait faire absolument, l'effusillade du 3 mai de Goya avec Guernica, et avec, en plus, les massacres de Corée de Picasso lui-même et l'exécution de Maximilien de Manet. Il y avait un endroit du musée Reina Sofía où, immobile dans un même endroit, sans bouger la tête comme ça, lentement, on pouvait voir Guernica, l'exécution de Maximilien, les massacres de Corée, et la fusillade du 3 mai. On était là au centre, dans une espèce de tourbillon immobile, au centre de la peinture moderne, c'était assez extraordinaire. Et auparavant, en même temps, on a fait une exposition qui était justement ce thème que Blunt aurait aimé voir développer, Picasso et la tradition. Et on confronte un certain nombre de peintures de Picasso, de portraits ou de peintures, inspirées plus ou moins directement, parfois d'une façon absolument directe, puisque c'est le travail sur les Ménines. Il est nommé, il est clair, il travaille sur les Ménines, ont confronté les œuvres originales des peintres espagnols et le travail de Picasso sur les œuvres. C'était une exposition assez extraordinaire. Mais pourquoi cette réaction de Blunt? Pour une raison très simple, c'est que Blunt est marxiste et qu'il a une vision de l'art où il y a deux éléments. Un élément qui dure pendant toute sa vie, qui perdure, sur lequel il revient plus ou moins, c'est un point de vue qui n'est plus marxiste, qui est un point de vue différent, après, mais c'est le point de vue de la discussion sur très actuel, le marché et l'État. L'art et le marché. Lui, il est absolument partisan dans les années 30, très inquiet de l'évolution du marché et les déviances que ça peut créer dans l'art. Et il veut qu'il y ait un espace de protection publique de l'art qu'il voit étatique. Il voit l'État comme un bienfaiteur des arts et qui, sans marquer les limites esthétiques, quand même, préserve le domaine de l'art de l'influence des cours du marché, etc. Ça, c'est une raison théorique qu'il a défendue très longtemps. Mais très curieux, bien entendu, c'est amusant qu'il finisse comme directeur des collections de la Reine, alors qu'il apprenait toujours la nationalisation de toutes les œuvres d'art qui sont propriétés privées. Mais ça, c'est un thème sur lequel on pourrait se développer, mais ce n'est pas la peine. La deuxième chose, c'est que, en 1937, quand il visite l'exposition des arts et techniques, il est déjà recruté par les services d'espionnage soviétiques. En deux mots, parce qu'il y a toute une biographie de 600 pages, il y a des tas de travaux, Blunt fait partie de ces jeunes britanniques d'Oxford et de Cambridge, parfois des deux, parfois Oxford, parfois Cambridge, lui Cambridge plutôt, qui sont attirés pour des raisons personnelles, pour des raisons d'inconformisme, pour des raisons idéologiques, pour des raisons philosophiques, pour beaucoup de raisons, sont attirés dans les années 30 par le marxisme et par le communisme. Et la guerre d'Espagne éclate dans cette conjoncture-là et devient une espèce de cristallisateur, de catalyseur de toutes les inquiétudes et de tous les espoirs. Si on vraiment dans un roman, on pourrait faire une longue dérive sur la guerre d'Espagne et les intellectuels. Il faudrait parler de Malraux, il faudrait parler de Koestler, il faudrait parler de Orwell. Enfin, ça, c'est un chapitre interminable. Mais c'est juste pour évoquer la fascination que cette guerre a provoquée. Il fallait parler de Hemingway et de l'espace. La fascination qu'elle a provoquée et aussi les divisions qu'elle a engendrées. Où pour la première fois, on commençait à prendre corps des attitudes antistaliniennes ou des critiques de la politique de Staline dans la gauche intellectuelle mondiale. C'était autour de la guerre d'Espagne que ça se passe. N'oublions pas que le congrès des intellectuels antifascistes qui a lieu en Espagne en 1937, c'est le congrès où Gide revient avec son voyage en URSS, retour du URSS et retouche au retour, et il est écarté de ce congrès pour éviter les histoires. Donc, c'est une époque très, 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 très complexe. Mais à ce moment-là, en fonction du marxisme, en fonction de ses idées, il se passe quelque chose qui était fréquente à l'époque, et fréquente surtout dans les pays à prédominance protestante, donc ayant connu la réforme non catholique, où il n'y a pas, à cause de cela en partie, de grands partis communistes de masse. Les grands partis communistes de masse sont en général dans les pays catholiques. Dans les pays protestants et de réforme, il n'y a pas eu de grand parti communiste de masse. Je donne ça comme indication pour développer. Mais donc, dans les pays anglo-saxons, à prédominance protestante, quelle que soit la couleur des sectes ou des églises protestantes, il n'y a pas eu de grand parti communiste de masse. Le système soviétique, que ce soit à travers l'international communiste ou à travers les services spéciaux, de toute façon, le système soviétique choisit d'orienter les brillants étudiants qui deviennent marxistes vers les services spéciaux et non pas vers le Parti communiste. C'est ainsi que nous voyons aux États-Unis et en Angleterre des étudiants brillants qui auraient fait carrière idéologique et politique dans les partis communistes, mais qui, étant donné la faiblesse de ces partis, sont orientés vers le travail direct avec les soviétiques. Pourquoi ? Parce que ces gens vont devenir fonctionnaires du Foreign Office ou du département d'État, ou vont diriger des usines importantes pour la construction des bombes, etc., etc., ou vont travailler dans le laboratoire de recherche le plus pointu qui prépare la bombe atomique. Donc il y a un recrutement systématique de ces gens-là. Et Blunt, à une époque qui n'est pas spécifiquement déterminée, mais qu'on peut dater à peu près de cette période de la visite du pavillon espagnol, est recruté comme agent. Et avec les recrutés comme agents, et d'abord avec l'orientation de faire la chasse de cerveau, quoi, la chasse des talents. C'est lui qui recrute, c'est un agent recruteur. Et c'est lui qui recrute et qui crée autour de lui, et qui aide à créer autour de lui ce groupe qui est devenu célèbre, les étudiants de Cambridge, c'est-à-dire MacLean, Burgess, Philby, etc., etc. Ce groupe qui est devenu célèbre, avec la défection postérieure et tout ce que ça a nourri comme littérature romanesque ou documentaire. Donc il y a là cette transition qui se fait à ce moment-là entre une idée du marxisme, l'idéalisme, et un travail d'intelligence dans le sens de l'intelligence de l'enseignement. C'est des périodes où, dans le monde entier, des militants deviennent ça. C'est la période où la génération qu'a connue déjà, dont les derniers représentants, Blunt les a connus, la génération des agents du Comintern clandestins et politiques dans le monde occidental, était une génération de militants, d'hommes qui parlaient toutes les langues, de gens qui étaient juifs hongrois et qui travaillaient en Angleterre, ou allemands et qui travaillaient en Argentine, enfin des cosmopolites, disons. Et cette génération suspecte, pour beaucoup de raisons, en premier lieu, parce que c'est des intellectuels avec la possibilité de penser autonome, sont peu à peu éliminés des services du Comintern qui deviennent peu à peu des services spéciaux de l'Argentine soviétique et sont remplacés par des professionnels qui sont russes, qui sont soviétiques, qui ne parlent pas de langue et qui sont les contrôleurs de toute cette jeunesse. Blunt a la charnière de ça. Il connaît d'abord son premier responsable, officier traitant, est un Arnold Deutsch, un juif d'Europe centrale, cultivé parlant toutes les langues, et après il passe à des apparatchiks soviétiques avec lesquels il a des rapports évidemment un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, mais il y a cet acte de fidélité qui est fondamental. Donc, 37, l'exposition, le Guernica de Picasso et l'espion qui donne son opinion. Mais il ne donne pas son opinion sur, je reviens là-dessus, sur Guernica seulement parce qu'il est marxiste et qu'il défend l'art officiel. Il y a de ça, bien entendu. Il y a de ça. Il y a des textes de lui, même des textes dans le spectacle, dans l'autre vue, où il parle en marxiste et il parle de la nécessité du contact avec le peuple, d'un art pédagogique, etc. Mais il y a aussi une espèce de phénomène de compensation. Son rapport avec Picasso indique, son rapport permet de déceler son rapport avec le communisme. Quand il n'aime pas Picasso, c'est qu'il est complètement identifié. Et quand il recommence à aimer Picasso, même partiellement, c'est qu'il a pris ses distances avec le marxisme. Picasso, la critique est toujours une espèce d'expression publique de ce qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il cesse évidemment de plus en plus de parler de marxisme. Il finira par ne plus en parler du tout. Sa critique de Poussin, son travail sur Poussin, personne ne peut soupçonner d'où viennent ses idées quand il fait ça. Il y a cette espèce de double évolution, et Picasso est une espèce comme la pierre de touche de ce, pas seulement Guernica, mais d'autres, la pierre de touche de cette attitude vis-à-vis de la peinture, vis-à-vis de l'art, etc. L'activité de Blunt, je crois qu'on peut la diviser, l'activité de l'espion Blunt. C'est une activité d'historien de l'art, de directeur d'instituts prestigieux en Angleterre. Elle se poursuit, elle est tout le temps couronnée de succès. Ses livres, les catalogues raisonnés de Poussin, et puis les livres, les monographies qu'il peut faire, infini nombre de monographies qu'il peut faire, se poursuivent pendant toute cette période. Mais du point de vue de son rapport avec le communisme, qui est devenu un rapport d'espion, de service de la cause à travers le renseignement. Il y a évidemment des époques différentes. Jusqu'en 1940, Blunt est un chasseur de cerveau, un chasseur de tête. Il est un peu là, à la tête de ce groupe, ou en tout cas comme frère aîné de ce groupe de jeunes universitaires brillants. Il transmet des renseignements plutôt de... remarquons qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a transmis. Les archives soviétiques qui commencent à s'ouvrir sont très discrètes sur le contenu. Il y a un seul point sur lequel on est sûr, j'y reviendrai parce que c'est une époque un peu postérieure, mais en général on ne sait pas très bien. Même les archives soviétiques sont quand même pas complètement ouvertes, et les livres qui ont été faits en Union soviétique et après en Russie sur ces hommes ne rentrent pas dans ce détail. Il est clair qu'il y a une censure, ou en tout cas une... Mais la même chose arrive du côté britannique. les services d'intelligence britanniques n'ont jamais dit ce que Blunt avait pu transmettre. La réaction de Thatcher à ce moment-là, à cet ordre-là, est catégorique. Elle dit, nous ne savons pas, nous ne saurons jamais ce qu'elle a pu transmettre. Mais nous savons quels étaient les documents auxquels il avait accès. Elle ne dit pas plus. Donc, si les Britanniques savent quels sont les documents auxquels il a eu accès, ils savent ce qu'il aurait pu transmettre. Mais ils ne disent pas si c'était important ou pas. En 1940 commence une deuxième époque. Parce que 1940, malgré un premier échec d'un rapport qui rappelle sa jeunesse turbulente, marxiste, etc., en 1940, il réussit à entrer et à être recruté par le contre-espionnage britannique, le MI5-6. C'est une habitude britannique aussi. Combien d'écrivains britanniques ont travaillé pour le service d'intelligence pendant la guerre, au moins? Certains sont célèbres, certains ont écrit cette période-là. Ce n'est pas une habitude continentale. On ne voit pas très bien les services de contre-espionnage français recruter des intellos comme ça. On ne voit pas très bien les agents des services de renseignement Action ou renseignement français être recrutés parmi ces moments-là. Mais en Angleterre, c'est une tradition. C'est une tradition, et malgré un premier obstacle, malgré un premier refus, en 1940, pendant la guerre anti-hitlérienne, n'oublions pas, il est recruté. Il a toujours prétendu, Blunt, que les renseignements qu'il a fournis à l'URSS ne concernaient que la lutte contre Hitler, la lutte anti-nazie. Une trace de cela reste dans les archives soviétiques parce qu'on y voit une félicitation que le résident russe doit transmettre à Blunt pour le rapport extraordinairement efficace qu'ils ont envoyé sur les préparatifs allemands d'une offensive à Koursk, qui a permis aux soviétiques de contrecarrer cette offensive et de gagner la bataille de Koursk, qui était très importante dans la guerre mondiale. Et ils allouent à Blunt, qui ne demande rien, jamais il n'a demandé un sou, c'est une idée. Ils lui allouent une prime de 100 livres. Je ne sais pas si à l'époque c'était beaucoup, 100 livres, mais c'était quand même un peu dérisoire, non? 100 livres, c'est tout ce que Blunt a touché comme prime dans toute sa carrière, parce qu'il était complètement bénévole, idéaliste et désintéressé de ce point de vue-là. À la fin de la guerre, ça change de nouveau. Évidemment, il n'est plus au MI5 ou 6, que c'est les deux services de contre-espionnage, sur le territoire ou à l'extérieur, il a travaillé pour les deux. Il fait des missions qui sont des missions secrètes, mais qui sont des missions pas du tout de renseignement, des missions pour la couronne anglaise. Il fait deux missions en Allemagne pour essayer de rattraper dans des archives privées des familles de Hesse et de Hanovre, famille royale, princière allemande, liée à la monarchie anglaise par des liens de cousinage, comme toutes ces grandes familles impériales et royales européennes avant la guerre de 14-18, pour essayer de voir s'il existe et récupérer dans le cas où il existe des lettres ou des correspondances compromettantes qu'Edouard, celui qui a abdiqué au bénéfice de son frère cadet, George VI, qu'Edouard aurait pu avoir avec les dignitaires nazis. Il fallait effacer cette tâche de la couronne britannique. Et certaines versions, plus ou moins romanesques, disent qu'il a récupéré certaines lettres, d'autres versions disent que ça a été inutile, enfin, ça ne fait rien. À ce moment-là, les missions secrètes confidentielles de Blunt sont pour la couronne, ne sont pas pour le renseignement soviétique. Et peu à peu, son utilité s'évanouit, s'éteint. Il n'est plus en situation de fournir des renseignements. Il est peu à peu abandonné, et lui aussi abandonne peu à peu, s'insère davantage dans la vie sociale anglaise, jusqu'au moment où tout est réactivé par la découverte américaine, qui a mis des années à obliger les Anglais à tenir compte de leur avertissement, la découverte du contre-espionnage américain, du fait que, au plus haut niveau de l'ambassade anglaise à Washington et du service d'intelligence à Londres, même, il y avait des taupes. C'était Burgess et MacLean. Et c'est à ce moment-là que Blunt rend son dernier service à l'Union soviétique en organisant et en facilitant la fuite de Burgess et MacLean, qui disparaissent en partie due à la lenteur bureaucratique des services anglais qui n'arrivent pas à croire, à comprendre et à admettre et à planifier que des gens aussi raisonnables et aussi cultivés, aussi raisonnables et aussi british soient des agents de l'ennemi. Et donc, ils s'en vont. Et à partir de là commence une autre période de recherche journalistique, d'entrevues, etc., qui peu à peu fait éclater. Mais lui, il s'en sort. Il s'en sort alors que tout le monde sait qu'il est dans le coup et qu'il est interrogé pendant 10 ans, systématiquement par les services de contre-espionnage. Il ne s'effondre jamais, il maintient toujours la même attitude et on n'arrive pas à trouver des preuves. Jusqu'au jour où il avoue, il reconnaît et il échange son immunité. À ce moment-là, il est directeur des collections de la reine. Il est anobli par le chevalier du royaume, il est anobli par la reine, il a des postes partout, c'est-à-dire que il sait bien qu'il a des cartes à jouer. Le scandale aurait été horrible. Et il obtient l'immunité et le silence, et il s'engage à fournir aux renseignements contre-espionnage anglais ce qui lui arriverait si jamais il est recontacté par les services soviétiques. Il a peut-être dit aux soviétiques la même chose. Il a peut-être dit aux soviétiques à ce moment-là, mais là on n'a plus de traces, on n'a plus de preuves, on n'a plus de documents, on ne sait pas très bien, jusqu'à l'année 51, qui est le moment de la fuite de Burgess et MacLean, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé ensuite. On sait pas. On sait qu'il y a cet oratoire, qu'il y a eu cette... Jusqu'au jour où, pour des raisons internes de politique interne anglaise, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment un peu ennuyeux, pour des raisons internes, il y a la nécessité de trancher dans le vif. Ce que fait Margaret Thatcher, elle fait une communication aux communes et elle dit que le cinquième homme, c'était Anthony Blunt. Et que, elle explique très brièvement, mais elle explique un peu tout ça. Et à partir de là, commence évidemment une vie différente pour Blunt, publiquement dénoncé, attaqué par les uns, défendu par les autres. Beaucoup plus défendu qu'on pourrait s'y attendre, beaucoup plus défendu qu'on pourrait s'y attendre, et une vie qui peu à peu s'éteint, pas dans l'anonymat, parce qu'il continue à écrire, à publier, à faire des conférences, mais quand même dans une espèce de retraite. C'est très difficile d'évaluer d'une façon objectif, historique, et d'évaluer d'une façon morale. L'activité de Blunt, certains sont d'une dureté terrible, le plus dur peut-être, parce que le plus intelligent, c'est George Steiner, dans ce long essai, long article qui s'appelle « Le clerc de la trahison ». Il dit, bon, il reconnaît, il explique très bien l'importance de Blunt en tant que historien de l'art, spécialiste de Poussin, etc. Il explique très bien le sérieux de son travail artistique. Il analyse d'une façon très intéressante les raisons psychologiques de la trahison, très intéressante. Parmi ces raisons-là, il énumère une autre qui est l'homosexualité de tout ce groupe, qui était une raison qui, évidemment, aujourd'hui, ne fonctionnerait pas de la même façon. Mais à l'époque où ça s'est lieu, les lois britanniques étaient d'une extraordinaire sévérité contre l'homosexualité. Et ce sentiment qu'avaient tous ces jeunes gens de faire partie d'une espèce de fratrie particulière, où ce rapport homosexuel faisait partie des privilèges d'une certaine attitude dans la vie, de certaines cultures, de certaines libertés par rapport à la société opprimante, d'oppression, ça, c'est évidemment, ça ne joue sûrement pas de la même façon. Mais c'est un élément qu'il analyse avec un tact et une précision assez formidable, je retenais. Sa conclusion est très dure. Est très dure parce que, malgré toutes les raisons objectives qu'on peut trouver pour cette dérive du marxisme vers l'espionnage, il n'empêche que cet homme, pendant des années, a objectivement livré des agents britanniques qui travaillaient dans les pays de l'Est au service soviétique, puisqu'il ne les a pas protégés, et qu'il a forcément communiqué ce qu'il savait sur eux. Donc, objectivement, il a des morts sur la conscience. C'est celui qui va le plus loin. Depuis lors, il y a une grande biographie de lui, d'une certaine Miranda Carter. Ils sont plutôt indulgents, on explique tout le temps, mais on trouve toujours une raison. Il était séduisant, il était ceci, il était cela, il était intelligent. On peut comprendre, dans les années 30, cette ferveur, c'était la crise du monde capitaliste, c'était un espoir nouveau qui se levait. Mais il arrive un moment, bien sûr, où il faut choisir. On choisit d'être militant ou d'être espion. Et il a choisi d'être espion. Donc, faire la part du feu d'évaluation, c'est très compliqué et on ne pourra jamais le faire. Le résultat, c'est que nous avons l'un des hommes le plus, sans doute, le plus intelligent et le plus cultivé parmi les historiens d'art britanniques et européens, qui a une œuvre indiscutable, que rien de tout ça ne met en cause, rien, qu'on peut discuter à l'intérieur même des paramètres de l'œuvre artistique, bien entendu. Bien entendu. On peut, dans laquelle je crois, c'est une vue personnelle que je défendrai avec beaucoup plus de documents si on avait l'occasion et le temps, dans laquelle ce rapport avec Picasso est, à mon avis, crucial pour voir un peu toute évolution. La fascination que Picasso exerce sur lui, la colère aussi qui exerce le fait que son art échappe à tout académisme et à toute conception marxiste de la peinture et de l'art, et puis la recherche dans Picasso des motifs, des éléments, des techniques même de la tradition classique. Dans ce sens-là, Blunt s'inscrit complètement dans cette interminable, le siècle est terminé, parce que nous sommes au 21e siècle, mais interminable discussion du 20e siècle, cette grande bataille du 21e siècle entre art figuration et non figuration, art figuratif et art non figuratif. C'est s'inscrit là-dedans, dans cette bataille. Et lui prend position pour l'art, le réalisme figuratif, mais d'une façon qui n'est pas seulement marxiste, qui est aussi d'une façon personnelle, qui n'est pas seulement à cause d'une idéologie, qui est aussi d'une façon personnelle. D'où son intérêt pour Poussin et pour Philippe de Champagne et pour beaucoup d'autres peintres qu'il a fait connaître en Angleterre. Sans lui, en Angleterre, on n'aurait pas connu ces peintres-là de la même façon, en tout cas avec la même intensité. Voilà, donc, revenons à un moment, sur la rive droite de la Seine, Blunt entre dans l'exposition, y voir Picasso, c'est un espion soviétique, c'est un historien indiscutable, et il gardera pour lui jusqu'à la fin le secret de cette vie tout à fait romanesque. Merci.
Vous venez d'entendre la communication de Georges Semprin de l'Académie Goncourt intitulée « Anthony Blunt, le clerc de la trahison ». Communication qu'il est venu donner le 6 juin 2007 devant les membres de l'Académie des Beaux-Arts.